France Culture, les matins du samedi, Caroline Bombay.
Bonjour Natacha.
Bonjour Caroline.
Alors on est à une semaine des scrutins, les élections européennes sont donc à la une de nos journaux ce matin.
Le Figaro passe au crible les programmes des candidats. Selon le journal, deux thèmes occupent une place centrale, l'idée d'une Europe qui protège et l'environnement. Néanmoins, dans le décryptage des promesses taillées pour une campagne très nationale, pas une mesure ne s'est imposée dans le débat public. Ce que hume Libération ce matin, c'est l'avant-veille d'un tournant. Europe, le chamboule tout, point d'interrogation. Laurent Geoffrin écrit « Poussée populiste, écologiste, centriste, le jeu s'ouvre pour les autres forces. Elle pourrait faire chavirer la traditionnelle coalition rose-bleue du Parlement européen. Pour Ouest-France, tout le monde sent que nous sommes à la croisée des chemins. Tout le monde, même Steve Bannon, l'ex-conseiller de Trump, est en interview dans Le Parisien aujourd'hui en France. Et il l'annonce, l'élection européenne sera un tremblement de terre. Il prédit une alliance Orban-Le Pen-Salvini et des conséquences à l'international. Trump n'aura pas été élu président sans le Brexit. Ça donne un élan. Si les populistes font plus de 30% aux européennes, cela donnera cet élan qui aidera Trump pour la campagne de 2020.
Alors ça c'était pour les quotidiens, mais les hebdomadaires aussi. Titre sur l'Europe.
Dans son édito pour Le Point, François-Olivier Gisbert écrit « L'europhobe est devenu une espèce en voie de prolifération, l'europhile, lui, se fait rare. » Europhile, c'est le cas d'Emmanuel Macron. Dans son papier, France-Europe Express, Society analyse l'échec de la politique européenne du président. Un gâchis, un de plus, je cite. Le chef d'État n'a pas trouvé la bonne stratégie pour peser dans l'Union. En deux ans, un grand nombre de ses propositions ont été abandonnées. Pourtant, depuis Mitterrand, personne n'avait autant assumé son européisme. Pour certains, il faut voir cet échec comme l'essoufflement du sacro-saint moteur franco-allemand avec une Angela Merkel en fin de carrière. Pour le politologue Olivier Costa, il faut accuser le manque d'investissement de la France au Parlement. L'Assemblée européenne n'a jamais vraiment intéressé les dirigeants hexagonaux. C'est selon lui une erreur diplomatique.
J'interromps cette revue de presse pour me tourner vers notre invité Giuliano da Empoli qui donc vit à cheval entre l'Italie et la France. Et donc vous regardez d'un œil attentif la politique aussi d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse du journal Society sur les échecs de la politique européenne du président ou bien vous êtes plutôt comme l'ancien Premier ministre italien dont vous étiez le conseiller politique, Matteo Renzi, qui s'exprimait jeudi sur Europe 1. Macron, disait-il, c'est l'alibi des populistes italiens aujourd'hui, mais il sera le leader des prochains mois en Europe.
C'est difficile à dire. Malheureusement, si on regarde les résultats, effectivement, tout l'agenda européen que Macron a essayé de poser, notamment avec le discours de la Sorbonne il y a un an et demi, il est très loin d'être en phase de se réaliser. On a plutôt l'impression qu'il y a des pas en arrière qui sont en train de se produire. Et ça naît en effet du vrai grand problème auquel on fait face, parce que même quand on parle d'une Europe plus réduite, avec différentes vitesses, etc., c'est vrai qu'il y a un désaccord fondamental au cœur de l'Europe entre la vision française et la vision allemande de ce qui pourrait être une intégration plus poussée et qui, jusque-là, a un peu paralysé les efforts de réforme.
Il y a autre chose qui paralyse les réformes, c'est les institutions européennes, Natacha. Et pour mieux comprendre le fonctionnement de ces institutions, on peut se tourner vers le magazine M du Monde.
Et pour son numéro 400, le magazine M est entièrement consacré à l'Europe, avec en couverture le drapeau européen en puzzle. Alors c'est un numéro très dense qui rend bien compte de la fourmilière qu'est l'Union européenne, avec le portrait des citoyens irlandais très attachés à leur appartenance à l'UE, ou celui de l'ancien président de la République tchèque, Václav Klaus, le père des eurosceptiques. Deux longs reportages sont à lire. Le premier est signé Zinette Drieff. Elle retrace l'itinéraire d'une directive européenne, celle sur l'interdiction du plastique à usage unique. Une solution concrète pour lutter contre les déchets marins et une décision prise en seulement 8 mois, un pied de nez au cliché de la lenteur bureaucratique de Bruxelles.
Et l'autre reportage s'intitulant Direct de Bruxelles, il est signé Jean-Pierre Strouban. C'est un reportage sur l'avant-garde de l'armée médiatique européenne qu'on lira donc avec grand intérêt. L'Obs est lui aussi parti un reportage en Europe cette semaine avec à sa une « Vivre sous le populisme ».
Ses envoyés spéciaux sont partis en Pologne, en Hongrie, en Autriche et en Italie. Comment vit-on dans ces pays dirigés par des nationaux populistes ? L'enquête montre le nouveau visage autoritaire de ces démocraties illibérales. En pleine révolution conservatrice, la Hongrie fait preuve d'une politique de natalité renforcée. Économiquement, il se met en place une chasse aux sorcières, une chasse aux entreprises étrangères. Du côté des opposants politiques, et des contre-pouvoirs, ils sont pressurisés, les médias muselés, leurs subventions supprimées, les dérives autoritaires sont nombreuses. Mais les atteintes à l'état de droit ne semblent pourtant pas éroder la popularité des pouvoirs populistes, nous dit Lopes. Un jeune Hongrois témoigne. La croissance est au beau fixe, la dette publique se réduit, le chômage est quasi nul, tout n'est pas à jeter. Et Lopes conclut, nulle part on y emprisonne les opposants. En matière de droits de l'homme, ces gouvernements populistes jouent avec les limites sans jamais basculer totalement.